Vous savez que sur Canal Sud, on vous parle souvent des anarchistes espagnols et argentins au 19e siècle. On vous parle peut-être moins souvent des innovations technologiques. Et c'est justement l'objet de cette nouvelle chronique de chat. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format. Et aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette chronique, une chroniqueuse indépendante, Laurie, fraîchement débarquée à Toulouse. Et on va parler avec Laurie et Chat de l'hybridation automobile. Alors, il ne s'agit pas des automobiles qui font l'amour entre différentes espèces. Qu'est-ce que c'est que l'hybridation automobile, Chat, pour commencer ?
Donc en automobile, en général, je vous apprendrai rien, il y a souvent un moteur thermique. Et du coup, le problème du moteur thermique, c'est que ça consomme de l'essence, et en ce moment l'essence ça coûte cher, il y en a de moins en moins, et pour en consommer moins, les constructeurs automobiles ont eu l'idée d'y ajouter une autre source d'énergie afin de diminuer la consommation d'énergie fossile.
L'huile de coude.
Voilà. En partie oui, mais il y en a peut-être d'autres.
Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ?
Mais en fait, l'intérêt de l'hybridation, c'est donc de réduire la consommation énergétique. Donc, parce qu'on sait tous que l'essence va devenir très rare. Il y a des taxes qui sont ajoutées par rapport au CO2, par rapport à avec l'Europe, etc., pour réduire les émissions, ce qui est très bien, parce que comme ça, on va avoir essayer de limiter l'effet de serre. Mais du coup, il faudrait ajouter une autre source d'énergie pour permettre la diminution de consommation d'essence. Donc par exemple, au lieu de consommer 10 litres au 100 km, eh ben, on va peut-être essayer de récupérer une partie de cette énergie qui est produite au freinage, par exemple, parce qu'au freinage, on va perdre de l'énergie, et récupérer cette énergie afin de pouvoir la réutiliser par ailleurs lors d'une réaccélération ou quand on en a besoin.
Alors, juste une petite précision, donc le moteur, quand tu dis thermique, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus exactement qu'est-ce que ça englobe ? C'est pas que essence, diesel ?
Donc il y a essence, donc c'est tous les dérivés de produits pétroliers. Donc on a essence, on a diesel, on a le GPL, gaz de pétrole liquéfié. On peut aussi considérer que toutes les huiles, les moteurs à huile, donc les moteurs à huile de tournesol, puis huile de friture McDo, je crois, il y a aussi. Donc tous ces moteurs qui font appel aux moteurs à explosion, sont des moteurs thermiques. Après, il y a même d'autres moteurs thermiques, même les moteurs Stirling, le moteur à vapeur est un moteur thermique. Donc ça, ce sont des moteurs thermiques.
Donc, et un moteur hybride, c'est un moteur en partie thermique, voilà. Et en partie autre chose.
En partie autre chose, exactement.
Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est, ces autres choses ?
Alors, ces autres choses. Le plus connu, c'est l'électrique. C'est le plus connu parce que l'hybride la plus vendue, c'est la Prius, et qui était une hybride thermique électrique. Donc il y avait un petit moteur électrique d'une petite centaine de chevaux, et à côté ils ont mis un petit moteur électrique d'une trentaine de chevaux, et du coup ces deux moteurs fonctionnent de concert. Donc par exemple, vous roulez à 100 km/h, au moment de freiner, au lieu, comme habituellement, l'énergie soit dissipée à travers vos plaquettes de frein sous forme de chaleur, du coup cette chaleur elle va se répandre dans l'air ambiant et on ne pourra pas la récupérer, elle est perdue. On va choisir d'utiliser un moteur électrique comme une dynamo, et du coup de récupérer une partie de cette énergie qui allait de toute façon être perdue, la stocker dans des batteries, et pour pouvoir, lorsqu'on va réaccélérer par exemple, au lieu d'utiliser de l'essence, du diesel, du charbon, tout ce qu'on veut, on va utiliser plutôt l'énergie électrique qu'on a au préalablement stockée, pour pouvoir réaccélérer, avoir une aide à l'accélération. Du coup, en fait, on limite la perte d'énergie.
Donc un moteur hybride, c'est pas un moteur avec plusieurs sources d'énergie finalement, c'est juste un moteur qui se sert d'une énergie qui était perdue.
Exactement, voilà, donc le concept de base c'était voilà, on brûle une quantité d'essence pour faire avancer la voiture, et vu que de toute façon on allait en perdre une certaine partie lors du freinage, on décide de récupérer une partie de cette énergie qui allait être perdue d'une autre manière, donc l'hybride électrique en est une, mais il y en existe d'autres.
Et alors juste tu disais, un peu comme une dynamo, C'est au freinage, tu peux expliquer un petit peu?
Et ben en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand vous êtes à vélo, vous roulez. Si vous avez une dynamo sur votre vélo, il y a un petit moteur électrique qui est couplé à la roue. Et du coup, quand vous roulez, bah, une partie de l'énergie, quand vous pédalez, est transmise, au lieu d'être transmise directement dans le mouvement, bah, elle est récupérée par cette dynamo, ce moteur électrique. Et du coup, le moteur électrique tourne et il alimente une petite ampoule.
D'accord. Et donc ça, c'est au freinage, en fait, c'est ça, hein, c'est que
voilà.
C'est la dynamo qui nous fait freiner. Un peu comme quand on doit pédaler plus fort, quand on a une dynamo sur notre vélo, c'est cette énergie-là qu'on récupère.
Exactement, voilà. Donc c'est qu'en fait, on va... c'est-à-dire que si vous arrêtez de pédaler alors que vous avez la dynamo, vous allez ralentir plus vite que si vous arrêtez de pédaler sans dynamo. Du coup, la dynamo va consommer une partie de cette énergie, et du coup, dans les voitures, on va amplifier ça beaucoup plus pour que ça fasse effet de frein et que du coup, ça va arrêter complètement la voiture, ou en tout cas en partie, on va quand même garder les freins à disque pour des raisons de sécurité évidentes. Et du coup, c'est comme une grosse dynamo, et au lieu de faire briller les feux à l'avant ou à l'arrière, du coup, on va recharger les batteries.
Et on recharge quelle batterie? La même que celle du moteur de base, enfin la batterie.
Non, c'est une batterie, ça dépend. Alors chez Toyota, c'est un alliage nickel-cadmium.
Mais ça,
c'est différentes technologies.
Enfin, le nickel, c'est facile à réutiliser.
Ah, alors le nickel-cadmium, je crois que c'est recyclable, mais alors dans certaines batteries, on va utiliser plutôt des lithium-ions. Alors là, on ne sait pas si c'est recyclable. C'est produit dans des conditions dont on reparlera peut-être plus tard. Mais l'avantage, c'est que c'est très léger et du coup, on peut mettre plus de batteries en quelque sorte dans le même espace ou en tout cas en allégeant la voiture, pour pas qu'elle soit trop lourde et du coup entraîner des économies d'énergie.
Donc attention à la batterie qu'on utilise quand on a une thermique électrique, c'est peut-être une batterie qui va pas être recyclable.
Oui, les lithium-ions, alors apparemment, il y a des usines expérimentales qui essayent de recycler le lithium parce qu'on en consomme beaucoup. C'est pas une ressource renouvelable. Et apparemment, c'est possible. Scientifiquement, c'est possible de le faire, mais en tout cas, à l'échelle industrielle, on sait pas le faire. Et il y a les automobiles qui vont avoir des batteries lithium. Tous les ordinateurs portables, c'est des lithium-ions maintenant. Les téléphones portables, les baladeurs.
Donc c'est un problème global qu'il va falloir un moment essayer de solutionner.
Dont on parlait déjà la dernière fois avec les montres connectées. Notre premier sujet. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les différents types d'hybrides qui existent?
Donc on en a parlé. Donc il y a l'électrique. Donc en électrique, il y a deux types. Il y a l'électrique simple, c'est-à-dire vous avez une batterie à l'intérieur, mais vous pouvez pas la recharger. Donc c'est que lorsque vous allez freiner ou ralentir que la voiture va recharger sa batterie pour pouvoir réutiliser son énergie plus tard. Y a un deuxième type d'hybride électrique, c'est ce qu'on appelle hybride rechargeable. Donc vous arrivez le soir du coup vous branchez votre voiture sur votre prise 230 volts EDF et le matin, comme ça quand vous partez, vous pouvez partir en mode électrique. Comme ça vous dépensez pas du tout d'énergie thermique, plus d'essence et du coup vous faites des économies... d'essence, enfin, vous faites économie d'un point de vue juste financier. Parce que le problème de l'électricité EDF, c'est qu'elle est produite...
par des centrales nucléaires.
Exactement.
Et à charbon, elles viennent de l'étranger.
Voilà, exactement. Et du coup, en fait, c'est juste déplacer le problème. C'est-à-dire que l'intérêt de l'hybride au départ, c'était de pouvoir utiliser de l'énergie qui allait de toute façon être perdue au freinage, pour pouvoir la réutiliser, enfin ne pas la perdre au final. Et alors que si on la branche sur le réseau EDF, on déplace le problème parce que du coup on va produire soit au nucléaire et du coup on va avoir des déchets qui vont durer des milliers d'années, soit ça va être du charbon et du coup c'est de la pollution CO2 directe avec plein de rejets nocifs. Ou alors si vous avez de la chance, vous avez une éolienne dans votre jardin, alors là c'est le banco parce que du coup vous consommez moins d'énergie et vous pouvez en plus... vous n'allez pas impacter le réseau EDF et du coup, vous n'allez pas consommer d'uranium.
Donc, sur une petite éolienne ou un panneau solaire, on pourrait aussi
Si vous avez déjà une maison à énergie positive, donc c'est-à-dire qu'avec des panneaux solaires, une éolienne, la géothermie, tout ce qui existe, apparemment, on peut brancher sa voiture le soir si on ne roule pas trop. Forcément, si on fait Paris-Toulouse tous les jours, déjà, je pense que la voiture électrique ne le fera pas. Mais bon, mais normalement, l'impact énergétique, il disait, d'un autre article que j'ai lu, il disait... Il y avait 10 millions de voitures électriques qui roulaient 100 km par jour, ça impacterait que de 4% la consommation électrique. Donc apparemment, notre consommation actuelle n'en serait pas beaucoup impactée. Donc après, il faut voir, peut-être sur la maison individuelle, il y aura un impact plus fort, mais il suffirait d'ajouter un panneau électrique supplémentaire d'avoir un frigo plus économe, de ne pas recharger sa montre connectée, après, on pourrait pouvoir y arriver.
Si c'est quelque chose qui... Si c'est pas seulement une voiture électrique, mais une voiture hybride, de toute manière, on n'a pas besoin de recharger des milliers d'essence, quoi. Ça peut juste venir...
Voilà, donc voilà, si c'est juste une...
ce qu'on a.
Voilà, donc si c'est une hybride rechargeable, vu que c'est pas une voiture totalement électrique, on peut se... Je pense que l'impact énergétique sera pas forcément énorme. Après, je vais sûrement me faire crier dessus par mes copains ingénieurs qui vont me dire « Mais si !» Bon, bon voilà.
Donc, pourquoi il serait énorme, cet impact, selon tes collègues?
Bah, parce que ça dépend sûrement qu'il doit y avoir une histoire de rendement lors de la conversion électrique. Ça doit pas être les mêmes tensions, ça doit pas être les mêmes intensités. Donc il doit y avoir de la perte, je suppose qu'en plus dans un avenir proche on va faire ça par induction parce que les gens ils vont avoir la gentille flemme de brancher le soir en sortant du boulot, du coup on va sûrement mettre une bobine dans le sol de son garage, on va se garer dessus et puis ça va recharger ça sans fil.
Et comme on met des casseroles sur le feu et on a même plus à allumer le bouton s'allume presque tout seul quoi.
Ouais ça va être, enfin à mon avis ça va être dans 10-15 ans on va voir ça arriver parce que du coup ce serait génial, on arrive le soir on se gare, la voiture elle se charge toute seule, on n'a même plus besoin d'y penser. Le problème, c'est que la recharge par induction, c'est joli, mais il y a des pertes, parce que on comprend bien que pour que l'énergie les traverse, faut bien
qu'elle passe quelque part, quoi.
Bah oui, alors je sais pas du tout quels sont les rendements, faudrait que je fasse la recherche, mais en tout cas, il y a de la perte, et c'est un des grands problèmes. Ils font déjà des télés qui marchent par induction, où en fait, vous avez un socle par terre, vous avez la télé qui est accrochée au mur, et du coup, vous avez aucun fil qui pend entre la télé et le mur, enfin, et le sol. Et c'est la télé alimentée purement sans fil par induction. Donc c'est très joli, mais moi, ça doit consommer une énergie folle.
C'est comme les micros fantômes en radio, d'ailleurs, non? Il y a des micros qui fonctionnent comme ça, sans fil.
Ouais, heureusement, on n'est pas encore équipé de tout ça à Canal Sud. On n'a pas vraiment eu les moyens.
Vous n'avez pas eu d'investisseurs Qatari qui sont venus encore pour...
Pas encore, mais on a des contacts avec des investisseurs catalans, par contre.
Et alors, il y a encore un autre type de moteur hybride.
Ah oui, donc quand il s'agit d'économiser, de faire économiser de l'argent à ses clients et donc faire acheter des véhicules, les ingénieurs ont beaucoup d'idées. une des dernières en date, c'est ce qu'on appelle l'hybride air. Alors vous allez me dire, mais comment ils vont utiliser de l'air pour faire avancer une voiture?
Et comment?
Je vous sens...
Est-ce qu'ils vont mettre des ventilateurs pour les faire pousser derrière?
Non, eh bien non. En fait, c'est assez simple et ça m'étonne qu'on n'y ait pas pensé avant. Donc comme je vous ai expliqué, dans une voiture, par exemple une hybride électrique, quand on va freiner, c'est une dynamo qui va récupérer l'énergie électrique. Et là, au lieu de mettre une dynamo, on va mettre un petit compresseur. Et du coup, quand on va ralentir, on va couper le moteur thermique. Et le compresseur va se mettre en marche, va récupérer l'énergie des roues quand on avance, du coup ça va freiner la voiture, et ça va compresser de l'air, et ça va la mettre dans une bonbonne, sous de l'air compressé, et quand on va vouloir réaccélérer, on va inverser le compresseur, du coup ça va devenir comme un petit moteur à explosion, mais juste avec de l'air qui va se détendre, et du coup on va avoir un petit boost à l'accélération, je sais plus, de quelques secondes à quelques minutes. Et du coup, ça va en ville, par exemple, c'est très efficace parce que vu qu'on fait toujours, j'accélère, j'arrête. Du coup, les quelques secondes, ça fait gagner énormément de, ça fait baisser de 20 à 30% la consommation en ville, ce qui est énorme. Et du coup, là, on n'a plus de problème de batterie, on n'a plus de problème de rechargeable parce que, dans l'absolu, on pourrait faire un compresseur à la maison, tout ça, mais c'est pas l'idée. Mais au moins, on aurait une bonbonne. Une bonbonne, on sait faire. C'est de l'acier ou de l'alu. Ça consomme pas plus d'énergie que. Enfin, que fabriquer une bonbonne traditionnelle, on met ça dans la voiture, ça prend pas beaucoup de place, on met ça entre les sièges, je crois, ils ont fait chez Peugeot. Et du coup, voilà.
Peugeot a déjà commercialisé cette voiture ?
Il y a un prototype qui marche, et si j'ai vu une interview, s'ils ont le feu vert de la direction qu'ils ont très probablement, ça, dans 3 ou 4 ans, on les verra en magasin.
Pas trop cher ?
Ah ben non, parce que du coup, ça coûte pas cher.
Et ouais.
Parce que le problème des hybrides normales, c'est les batteries et moteurs électriques. Parce que dans les moteurs électriques, c'est des bobinages de cuivre, ça coûte très cher. Ou alors, c'est des terres rares, et comme son nom leur indique, elles sont rares, et du coup, elles sont chères. Et puis, il y a les batteries, ça coûte très cher. Une batterie, ça coûte 5000 euros, je crois. Donc, c'est excessivement cher, alors qu'une bonbonne... d'air comprimé.
Mais alors, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt et ça fait pas 50 ans qu'on tourne avec ça?
Ah ça c'est la bonne question. Vous savez, c'est pas forcément parce qu'une idée est simple qu'on l'a tout de suite. C'est vrai que j'ai absolument aucune idée. Peut-être qu'ils n'ont pas fait le brainstorming à temps. Ils étaient contents avec leur moteur à essence. C'est vrai que pendant tellement d'années, il y avait l'essence à profusion moins chère que l'eau. Du coup, ils n'ont pas cherché à faire autrement.
Oui, puis les lobbies pétroliers auraient peut-être pas laissé beaucoup...
Peut-être, mais quand on voit par exemple l'hybride air, c'est Peugeot, ils sont partenaires avec Total, Bah Total apparemment a pas dit non après, parce que Total aussi maintenant vu qu'ils savent que de toute façon ça va s'arrêter au bout d'un moment, ils vont essayer de faire durer leur stock, du coup maintenant les voitures économes ça les intéresse parce que comme ça ils pourront vendre leur essence plus cher mais pendant plus longtemps, et du coup ils pourront avoir leur rente pendant plus longtemps.
Ils adaptent leur stratégie au développement durable également.
Oui c'est ça, et je pense qu'ils ont, et là ils ont, il y a 4-5 ans ils ont compris ça et du coup... Ils ont investi dans les panneaux solaires aussi.
Donc ils ont intérêt à ce qu'on fasse des économies, non pas pour qu'on arrête de consommer, mais pour qu'on consomme plus longtemps.
Oui,
c'est assez astucieux.
Pour qu'on puisse croître plus longtemps, oui.
Et est-ce que des modèles dont on entend parfois parler, la voiture à eau, la voiture qui marche à l'huile de friture, donc qui sont des sortes des hybrides, mais là, plus artisanaux. Alors on a toujours cet inventeur génial qui a inventé la voiture qui fonctionne avec de l'eau. Bon, sauf que c'est comme
le moteur
qui tourne tout seul, quoi. Sans énergie préalable, ça a l'air un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des travaux, on va dire, industriels dans ce domaine-là?
Non mais enfin tous ces moteurs, alors je sais ce que j'avais, j'ai eu les moteurs à énergie libre sur YouTube, les moteurs à... ils disent ouais ça marche chez moi quand je suis tout seul, quand il y a personne avec moi, et comme par hasard dès qu'un journaliste ou un scientifique est là ça marche pas, mais de toute façon c'est une histoire d'années. Non, ça marche pas, l'énergie libre ça n'existe pas. En physique il y a ce qu'on appelle les trois thermodynamiques, elles sont pas changées, elles changeront jamais, et quand on met de l'énergie quelque part il faut la prendre quelque part, hein, parce que l'énergie ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas, ça fait que se déplacer où ça se convertit, et du coup, faut bien la prendre de quelque part. Donc, depuis 50 ans, pour les voitures, on prend en essence, on va prendre en électrique bientôt, mais moi, ça m'étonnerait. Après, le moteur à l'huile de friture, ça marche très bien, parce qu'en fait, au final, au lieu de mettre du diesel dans son moteur, on met de l'huile de tournesol, ou de l'huile de friture de McDonald's filtrée, je crois, ils voulaient faire ça. Alors ça marche très bien, mais bon, c'est toujours pareil, si on fait de l'huile, l'huile, faut bien la produire, donc faut mettre des plants, ces plants-là, bah du coup, ils servent plus à faire à manger, enfin, vous comprenez, le maïs...
Oui, ou... c'est le problème des biocarburants.
Voilà, bah c'est des biocarburants, hein, utiliser l'huile de friture, hein, c'est bien, parce que du coup, c'est de l'huile qui allait de toute façon être perdue, donc on retrouve un peu ce côté, bah, quitte à ce que ce soit perdu, autant qu'on le brûle ou qu'on l'utilise à faire quelque chose qui pourrait servir à quelqu'un, mais les biocarburants... Ça peut être un apport, mais un parmi tant d'autres, comme ça peut être un avec l'électrique éolien, l'électrique solaire, etc.
Avec son gros 4x4 tout noir, deux fois par jour, cet abruti se fait son petit Paris-Dakar, c'est l'aventure entre son bureau et chez lui. À bord, il a le GPS, des fois qu'il se perdrait dans le quartier. Depuis 20 ans qu'il le traverse, sûr qu'il peut se vanter d'avoir l'air conditionné. Il gueule au milieu des bouchons, sur tous ces cons dans leurs autos. Comme un bélier qui a l'illusion de pas faire partie du troupeau. Le 4x4, c'est carrément mieux qu'une voiture. C'est une cuirasse, une armure, ça a de l'allure et sa carrure. C'est un bulldozer, un char d'assaut, pour y monter c'est un peu haut. Il faut prendre un escabeau. À chaque fois qu'il double un connard, il se dit qu'il devrait s'acheter un kit main libre pour pouvoir faire des bras d'honneur en toute sécurité. Quand y a pas de place pour stationner, il grimpe n'importe où et s'égare, comme si jamais ça suffisait pas avec tout ce qu'il y a comme merde sur les trottoirs. On dirait un peu Goldorak quand il traverse le centre-ville. Mais quand il sort de son 4x4, on dirait plutôt Benny Hill. Le 4x4, c'est carrément mieux qu'une voiture. C'est une cuirasse, une armure, ça a de l'allure et sa carbure. C'est pour les blaireaux grand standing, pour le populo y'a le tuning. Pour frimer sur les parkings. Chaque soir en rentrant, s'arrête pas dans la petite côte qui est déjà pas bien large. Devant lui un vélo roule au pas, il peut pas le doubler, là, la rage. En plus de ça, c'est une gonzesse, s'est-il rendu compte? Et depuis, c'est les yeux rivés sur ses fesses qui la suit au ralenti. Hypnotisé par la cadence de son popotin qui balance, Il rêve qu'elle monte dans son carrosse, qu'elle voit que c'est lui qui a la plus grosse. Mais qu'elle se retourne et le dévisage, il se cache la tête dans les épaules, fait celui qui regardait le porte-bagage, celui qui les taille et l'antivole. Pauvre Schnock, malgré son armure et ses pare-chocs de safari, il se sent alors comme une chure de mouche sur sa carrosserie.
Il y a encore une technologie dont on n'a pas parlé et qui apparemment est quand même très très intéressante environnementalement parlant aussi et facile à mettre en œuvre.
Ouais, c'est le volant d'inertie. Alors ça c'est... pour expliquer, en gros, ce qu'on va faire, donc pareil, au lieu de mettre de l'électrique ou l'air, qu'on utilisait donc avant dans ces différents types d'hybrides, là on va récupérer l'énergie et quand on va freiner, eh bien, on va faire tourner... un morceau de quelque chose, donc de métal par exemple, donc ils ont fait des disques en métal, et donc quand vous freinez, ils déconnectent le moteur thermique, ils branchent ce disque en métal, et du coup ils le mettent à se faire tourner, j'espère que c'est français, et du coup en fait, quand vous décélérez, bah, ça fait tourner ce truc là, et du coup, et c'est sous vide, tout ça, donc après quand vous êtes à l'arrêt, hop, ils déconnectent ce truc là, et ils tournent dans le vide, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, et quand vous les réaccélérez, paf, il le rebranche sur les roues, en quelque sorte, et du coup, ça refait avancer la voiture. Et pareil, donc c'est comme la bonbonne, c'est pas... Enfin, on sait faire, hein, un disque en métal, ça fait des années qu'on sait faire, ça prend pas beaucoup de place, il y a Volvo qui l'a mis à la place de la roue de secours à l'arrière, alors c'est là, ça donne un boost de quelques secondes, Volvo c'est 10 secondes, mais comme pour l'hybridaire, c'est vachement bien en ville, parce que du coup, on freine, on accélère, et ben on utilise ça, et ça permet de pas perdre d'énergie au freinage.
D'accord, et ça c'est déjà dans des voitures aussi
Alors Volvo, le prototype marche, ça y est, et maintenant ils vont le vendre sûrement dans 3-4 ans dans le commerce, et Porsche l'a déjà utilisé en course automobile. Il l'avait mis à la place du passager, ils avaient mis ce disque là qui tournait et c'était vachement, apparemment c'était vachement efficace parce que s'ils l'ont mis en course et qu'ils ont gagné des courses, c'est que ça devait être pas mal. Et du coup il y avait un disque, alors je crois que c'était un disque en carbone, et du coup avec, c'était les roues arrière étaient entraînées par le moteur thermique et les roues avant étaient entraînées par le moteur électrique et du coup comme ça ils étaient même en transmission intégrale pendant un certain temps, mais on pourra peut-être y revenir.
Bon, ça a l'air génial, hein, comme d'habitude, ouais. Un super procédé, un super truc. Moi, le problème, c'est que je suis tombé sur un article d'un collègue, Bernabé Binquetin, dans Reporter, qui nous expliquait que finalement, l'auto hybride électrique, c'était quand même un petit peu une arnaque. Déjà parce que c'est pas écologique en soi, puisque on n'est pas quelque chose de propre. Puisque il faut, même si on n'est plus en train de bourriner avec son pot d'échappement, il faut quand même produire l'électricité. Et que pour l'instant, effectivement, c'est du nucléaire ou du charbon, essentiellement. Alors même si ça va augmenter de 4% seulement la consommation, c'est encore 4% de trop. Et puis en plus, on est censé décroître quoi, la production de CO2. Et puis en plus, donc il y a ces questions de terres rares, le lithium qu'on va chercher dans le Salar de Uyuni en Bolivie, des choses comme ça. Donc voilà, est-ce que c'est pas encore une nouvelle entourloupe pour nous faire trouver un moyen de tout simplement pas réduire nos consommations et puis pas se trouver à autre chose que la voiture individuelle où chacun est tout seul dans sa bagnole, dans un bouchon, à maugréer, oulala, qu'est-ce qu'il y a comme bagnole? Qu'est-ce que t'en penses?
Que rajouter après ça? Oui, bah oui, c'est ça, c'est le problème.
C'était rhétorique.
Voilà, une belle question rhétorique. C'est le souci, c'est-à-dire qu'encore une fois, on déplace le problème. Présenter l'électrique ou l'hybride comme quelque chose de totalement propre, de la malhonnêteté intellectuelle. Dire que oui, votre voiture elle est électrique, vous la branchez dans le mur et ça marche, oui, mais enfin voilà, on déplace le problème, on produit avec de l'uranium, on produit avec du charbon, on aura toujours besoin, je pense, de voitures, parce qu'on aura toujours besoin de se déplacer d'un point A à un point B de manière monopersonnelle, parce que faut aller chez le médecin, faut aller faire ses cours, etc. Mais il faut aussi investir dans les transports en commun. Apparemment on va plutôt dans la bonne direction sur la région, ils ont refait toutes les voies pour aller chez moi par exemple, ils ont doublé la voie, ils ont racheté des nouveaux trains pour inciter les gens à prendre le train et éviter que ça prenne la voiture, et du coup si les gens ils prennent moins leur voiture, et du coup il y aura moins de bouchons, et du coup on polluera moins et ce sera... En tout cas, j'ai l'impression qu'on va dans certains endroits où on prend de bonnes initiatives, mais il y a toujours cette espèce de... Vous savez, c'est des gens qui restent accrochés à leur rocher.
Comme nous, on reste accrochés à notre radio.
Oui.
Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'appliquer ces techniques de voiture individuelle dans les transports en commun? Parce que bon, les bus, ils puent du cul, généralement, quand même, en ville. Ils sont pas tous encore hybrides, électriques ou au GPL. Tu disais d'ailleurs que GPL, en plus, c'est même pas économie d'énergie. Est-ce qu'on pourrait appliquer ces techniques-là pour des bus en transport en commun, des choses comme ça? Ce qui, en plus, ça réduirait peut-être les coûts. Enfin, je sais pas, est-ce que ça pourrait se transposer à des transport collectif?
Ah bien sûr, de toute façon c'est juste la motorisation hybride, c'est qu'on appelle une motorisation, donc au même titre qu'il y a des moteurs à essence dans les bus et dans les trains, etc., on peut mettre des moteurs hybrides, il faut juste changer les modèles et les mettre à jour, etc. Mais ça existe, des bus hybrides. À Londres, les prochains bus à Imperial, donc à deux étages, vous savez, ils sont hybrides et du coup, ils vont consommer beaucoup moins. Il y a des, je crois aussi, une société qui a sorti des camions poubelles hybrides. Donc là, pareil, vu qu'ils font toujours accélérer, stop, du coup, là, c'est pareil, ils vont économiser de l'énergie. Les trains aussi, les trains, ils récupèrent une certaine partie de l'énergie au freinage dans des batteries. Ça se fait. C'est juste que ça coûte très cher. Alors quand vous dites ça coûte, je sais pas, le surcoût il est peut-être de 7000 euros dans une voiture. Vous imaginez que sur un train qui fait plusieurs centaines de tonnes, c'est des batteries, ça doit être énorme.
Mais en même temps, c'est un surcoût qui est aussi dû au fait que c'est pas encore très répandu et que bon, les lois du marché font que s'il y a quand même une production de masse, généralement le coût pour produire l'unité supplémentaire va diminuer. Enfin après, c'est une toute petite base d'économie un peu libérale, mais c'est vrai que ça se vérifie parfois quoi. Du coup, si ça se démocratise un peu ce système-là, ce sera peut-être moins cher.
Déjà, on voit que les voitures hybrides ont baissé de prix, les voitures électriques, on voit il y a 10 ans, ça coûtait les yeux de la tête, maintenant Renault sort sa Zoé au prix d'une voiture traditionnelle, sans compter, alors après il faut louer la batterie, etc. Mais en gros, ça revient pas beaucoup plus cher, voire moins cher d'avoir une voiture électrique maintenant qu'une voiture thermique. Mais comme tu disais, ça va être une histoire. En plus, si on arrive à recycler le lithium, donc qui est composant principal des batteries, du coup on aura du lithium pas cher, vu qu'il sera au lieu de le jeter, on va le récupérer. Du coup, on pourra avoir des batteries encore moins chères et ça va se rentabiliser. Mais. C'est toujours une histoire de on peut avoir des batteries, mais avec quoi on va les remplir. Donc voilà, c'est...
Très bien. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci, Chat, et puis merci, Laurie, pour ta participation bénévole et sympathique. Technologic.